Bonne année! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur PFM 99.9 pour l'actualité. On est ensemble pendant 30 minutes pour parler ensemble d'un sujet d'actualité entre lycéens. Et évidemment, on vous souhaite pour commencer la bonne année.
Ouais.
Et je vois au regard de Julie qu'on a complètement saturé et cassé les micros. Je suis évidemment en compagnie d'Héloïse aujourd'hui. Bonjour Héloïse, de Chloé.
Salut.
Et de Julie à la régie.
Salut.
Et aujourd'hui, on va tout simplement faire une rétrospective un peu de cette année 2018 qui s'est achevée. Alors on va essayer de retracer tout 2018, 365 jours en 30 minutes, on verra si c'est possible. Je ne pense pas, on va essayer de s'attarder sur les gros points, les points les plus importants. Et avant de commencer, j'aimerais votre sentiment. Qu'avez-vous pensé de cette année 2018 au niveau de l'actualité?
Oh, bah c'était beaucoup de changements, à la fois beaucoup de changements et beaucoup de complications, je dirais.
Enfin, c'est-à-dire niveau... complications?
Au niveau politique, on va dire, bah, là on voit les gilets jaunes, il y a eu... Enfin,
l'affaire Benalla.
Voilà, il y a eu beaucoup de ce genre de choses, Macron qui a essayé de faire des choses que ça n'a pas forcément plu ou que ça n'a pas marché, ce genre de choses.
Mmh.
Et du coup, qui ont causé beaucoup de problèmes et les Français ont commencé à se rendre compte que bah, c'est pas ce qu'ils attendaient, que ça allait pas forcément régler les problèmes, etc. Après, bah, il y a eu la mort de Charles Aznavour, de Johnny, il y a eu plusieurs choses comme ça au niveau musical, artistique.
On y reviendra sur les décès qui vous ont le plus attristé. Cette année, Chloé, c'est qu'est-ce clair. Que tu penses de cette année?
Je dirais mouvementée. Après, je pense qu'on peut... Enfin, il ne faut pas relever que les points négatifs. Je pense qu'il y a eu aussi, il y a aussi quelques points positifs dans cette année 2018. Voilà.
C'est clair.
On a quand même eu notre deuxième étoile.
On en parlera, si on en parle, on est obligé.
Bien sûr, évidemment. Si on ne parle pas de la Coupe du Monde, je ne vois pas ce qu'on pourrait parler de plus positif pour l'année 2018.
Complètement.
Cependant, oui, elle a été mouvementée, mais je pense en fait, si on revient vraiment sur les gilets jaunes, parce que c'est un gros point de un gros point
qui t'a beaucoup animé, on
2018,
l'a senti dans les débats.
Je pense que ils se sont enfin rendus compte que ils étaient pas, que les Français avaient tendance à pas forcément, à beaucoup se plaindre. C'est-à-dire qu'on est beaucoup à se plaindre chez soi, mais pas forcément à le dire ouvertement. Et je pense que ça a vraiment été une sorte de libération un peu pour tout le monde. Et on le voit, et là, là où on le voit le plus, c'est chez les lycéens. C'est-à-dire que grâce aux gilets jaunes, les lycéens se sont rendus compte qu'ils ne voulaient pas de Parcoursup, alors que Parcoursup est là depuis février-mars. Non, même pas. De l'année dernière, c'est ça?
Oui, l'année dernière, février-mars de l'année dernière. Il y a une génération qui a connu Parcoursup.
Donc, beaucoup, je sais que moi, en l'occurrence, beaucoup de gens de mon lycée m'ont dit « Mais pourquoi c'est seulement maintenant que vous en parlez ?» En fait, je pense que ça fait bien longtemps que, en l'occurrence, que moi, je ne suis pas contre Parcoursup et que d'autres personnes le sont, mais que... on ne l'avait pas fait avant, on ne l'avait pas revendiqué avant. Parce que, un peu comme tous les Français, on était du genre à se plaindre dans notre coin et pas forcément le montrer. Et c'est vrai que les gilets jaunes ont fait ressortir cette libération d'expression et de parole.
Très bien, donc si je comprends bien, pour toi, le sujet qui t'a le plus marqué en 2018, c'est les gilets jaunes et les manifestations lycéennes qui en ont découlé. Et j'aimerais savoir, pour toi, Héloïse, quel est le sujet qui t'a le plus marqué dans cette année?
Au-delà des... bah, les problèmes politiques, etc., je dirais les morts, enfin les décès plutôt, bah, de grandes stars. Bon voilà, on savait qu'ils allaient décéder, hein, ça devait arriver, mais on ne sentait pas forcément arriver et on s'est dit, bah voilà, c'est triste quand même, c'est la fin.
Tu penses à qui en particulier?
Charles Aznavour et Johnny Hallyday, surtout.
Alors, Johnny Hallyday, c'était en 2017. Enfin, c'était 5 décembre, je crois, donc...
C'est encore présent, quoi, je trouve.
On n'est pas quelques jours près, hein, franchement.
Parce que c'est vrai qu'on se dit c'était il y a un an, mais j'ai l'impression que c'était il y a deux mois. Enfin, je sais pas vous, mais.
Parce qu'il faut que ça d'en parler et que c'est ultra. Et moi, personnellement.
Notamment avec le procès qui est en cours, on ne sait pas, concernant son héritage. Hein.
Ouais, franchement.
Ça vous attriste pas d'ailleurs de voir tous ces. Est-ce qu'on ne voudrait pas laisser Johnny en paix et
carrément.
Laisser tomber ce
qu'il y a de complications, alors que, ouais,
c'est quelques grosses sommes de pognon.
Ça prouve encore que les gens sont très matérialistes et que pensent que par l'argent, puisque en soi, Johnny, c'était quand même. C'était un artiste, mais tellement reconnu, et tout ce qu'on retient de lui, c'est une putain d'affaire d'héritage, c'est triste.
C'est clair. Ça fait un an que ça dure, les gens se sont jetés dessus depuis
carrément.
Sa mort.
Carrément, c'est hallucinant. C'est-à-dire que même quand son dernier album, post-mortem est arrivé, les gens n'étaient même pas, enfin j'ai l'impression que ce qui a plus ressorti, c'est pas genre l'album, en fait on n'a pas tant que ça, on n'a pas parlé du contenu de l'album, mais plutôt du fait de l'argent de l'album, à qui ça allait à revenir. Ça restait encore sur l'argent, même quand il est sorti. C'est triste, en fait. C'est un peu comme si on... Je sais pas, les gens se seraient... Enfin, normalement, les médias et tout auraient dû vraiment parler à mort de l'album, des nouvelles musiques, ça aurait dû tourner et tout. Enfin, tout le monde est... Tous les fans de Johnny Hallyday, j'ai l'impression... Enfin, je sais pas, on a retenu que l'argent du truc et c'est dégueulasse.
D'accord. Concernant Charles Aznavour, Héloïse, pourquoi c'est la mort qui t'attriste, le décès qui t'attriste le plus?
Ah, parce que c'est un énorme artiste. C'est quelqu'un qui, au début, on lui a dit non, mais de toute façon, tu feras jamais carrière dans la musique, tu sers à rien, tu sais pas chanter, tu sais pas écrire. Il est parti faire le tour du monde. Maintenant, enfin, il a fait des musiques en 8 langues différentes. Il a fait tout, ce gars. Il est parti de rien pour devenir un artiste de malade. Et puis, il est resté parmi nous pendant un certain temps, quand même. Il est mort assez vieux, quand même. Ouais, c'est impressionnant. Il est resté sur les plateaux jusqu'au bout. Et oui, moi, il m'impressionne énormément et il retient énormément de ses titres. Enfin, ça reste quelqu'un de hyper important, quoi. Je suis très contente dans le sens où moi, on l'a connu, quoi. On l'a tous connu comme Johnny Hallyday. On a connu des artistes comme ça.
Nos petits enfants qu'on a connu, Charles Aznavour.
Claire, pour aller leur dire, tu vois, ce mec-là que t'écoutes encore 50 ans après sa mort, moi je l'ai connu. Enfin, c'est hyper stylé quand même.
On l'écoutera encore, même après sa mort.
Bien sûr, c'est intemporel.
Il n'y a rien qu'à voir, Daniel Balavoine, on l'écoute encore. Charles Aznavour, on l'écoutera encore.
C'est clair.
D'accord. Maintenant, j'aimerais votre sentiment. On va parler un peu de l'année politique d'Emmanuel Macron. On peut penser que cette année se décline en deux parties. La première partie, sous le symbole des réformes, de la marche en avant qui continue, avec de la suppression de l'exit tax, la réforme de la SNCF, qui a beaucoup fait jaser. C'est aussi une période marquée sous le signe de forte répression. Je pense notamment à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le blocage d'université, les cheminots en grève. Et une deuxième partie de l'année, entachée par quelques affaires, comme celle de Benalla, les Gilets jaunes, et des départs de ministres, comme Nicolas Hulot, Gérard Collomb, les Français en colère. Emmanuel Macron a commencé donc cette année 2018 à 50% dans les sondages, et il a maintenant fini à 23% d'opinion favorable. Il a le même score qu'Hollande à la même époque. J'aimerais savoir votre sentiment sur l'année d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre président?
Alors, quand même pas mal de choses à dire. Au début, ouais, comme tu dis, voilà, il y a eu beaucoup de réformes. On s'est dit, c'est bien, ça bouge, ça va sûrement donner des solutions, etc. Et au final, il y a eu le départ des ministres, il y a eu les cheminots. Et plus le temps passait, plus je pense que les gens se sont dit, en fait, non, c'est que dalle. Enfin, c'est beaucoup de choses dans le vent qui vont pas forcément faire bouger les choses. Et au final, les gens ont commencé à se rebeller. La preuve, il y a eu plusieurs départs de ministres, il y a eu les révoltes, pardon. Et maintenant, les Gilets jaunes, et je pense que c'est vraiment... les Gilets jaunes, ça marque vraiment la rébellion des gens, des Français, qui ont dit, non mais stop, il y a un moment, il faut qu'on dise ce qu'on pense, et voilà quoi. Il faut qu'on fasse savoir le fond de notre pensée.
En fait, le truc, à mon avis, le fait que les gens soient aussi déçus, c'est le fait que Hollande n'a rien fait pendant son mandat. À part le mariage pour tous, il n'a strictement rien fait. Et en fait, les gens, quand ils ont élu Macron, ils se sont dit, un jeune... Un mec qui va bouger les choses, qui va faire ce qu'il a dit. Et c'est ça qu'ils attendaient. Et en effet, dans la première partie de l'année, il a fait ce qu'il avait dit. Il a dit des choses dans son programme et en effet, il l'a fait. Et donc forcément, les gens se sont dit, enfin, quelqu'un qui bouge.
Ouais, sauf que... Il y a quand même eu quelques mouvements contestataires. Enfin, je veux dire, oui. Y a des réformes qui sont prévues, qui étaient prévues, qui n'ont pas plu au public.
Oui, mais c'est pas dans ce sens-là que je veux dire. C'est dans le sens que il a vraiment bougé. Il a fait les choses, pas comme Hollande, pas comme.
On sentait qu'il y avait des choses, voilà. qui évoluaient. Okay.
Ah ouais, on n'a pas clair, dit que c'était bien. On a dit qu'il le faisait. Et du coup, les gens ont commencé à avoir un espoir en lui et à se dire, bah enfin, ça va enfin bouger. On va au moins avoir
voir quelque chose.
On va voir quelque chose de concret. Sauf que le problème, c'est que ça s'est
cassé la gueule.
Ça s'est carrément cassé la gueule et beaucoup pensent que c'est... Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui préfèrent un Hollande qui fout rien qu'un Macron qui commence à partir un petit peu en dictature / monarchie quand même.
la faute à qui ou à quoi? Le fait que ça se soit cassé la gueule?
Une question.
Un tout. Moi, quand les gens scandent Macron démission, j'ai envie de rigoler quand même. Parce qu'il y a un moment donné où il n'y a pas que Macron le problème. C'est le gouvernement total. Déjà, on a mis Castaner à la place de Collomb. À partir du moment où tu mets Castaner au pouvoir et qu'il y a de la répression policière partout, c'est normal que ça se casse la gueule. Mais je pense que oui, c'est un tout. Et malheureusement, on a voulu. Puis bon.
Castaner, c'est pas le bon choix, poste de ministre au ministère de l'Intérieur, selon toi?
Oh non, c'est une ordure.
T'aurais aimé voir qui?
Bah, Colomb était déjà un peu mieux.
mais si Colomb ne voulait plus la
mais
place.
Mais Colomb n'en voulait plus, il est parti. Franchement, je sais pas.
Parce que Castaner est un macroniste de la première heure, c'est quelqu'un qui a été fidèle à Emmanuel Macron tout au long de.
C'est clair.
De ses péripéties politiques. Héloïse, est-ce que tu crois encore à Emmanuel Macron et à ce qu'il peut faire?
En fait, je me dis, les gens ont eu de l'espoir parce qu'ils ont vu Macron partir de rien et réussir à monter son propre mouvement politique tout seul. Il était au début aux côtés d'Hollande.
Ouais.
Et enfin, moi, je me souviens très bien quand c'était encore le mandat d'Hollande, le voir parler comme ça. Limite, il prenait autant de place, que le président.
Ah, mais il a toujours été comme
et
ça.
Et je me suis dit, mais.
Il a beaucoup d'égo, donc.
Lui, je me suis dit, je le voyais parler tout le temps à la télé, sur les plateaux. Je me suis dit, mais lui, il va devenir président, c'est sûr. Enfin, il va devenir quelqu'un qui va faire bouger les choses. Au début, je me disais, ouais, c'est bien.
Et le problème, c'est que oui. En effet, il fait bouger les choses, mais il ne fait pas bien bouger.
C'est ça. Il fait les choses, donc c'est déjà un plus par rapport à Hollande, on va dire. C'est déjà quelque chose de supplémentaire. Mais ça ne suffit pas dans le sens où ce n'est pas bien fait et ce n'est pas ce qu'il faut, en fait. Ce n'est pas les réformes qu'il faut. Et je me dis, s'il y a encore une chance, on va dire, qu'il arrive à rétablir ce qu'il a fait, qu'il arrive à trouver d'autres solutions.
C'est en lui. C'est un ancien ministre de l'économie, c'est un ancien banquier, c'est en lui. Le profit et l'argent, c'est en lui. Tu peux pas faire plus capitaliste que Macron, putain. C'est en lui, il est comme ça. C'est sa façon de voir les choses. Après, moi, je dis pas qu'on doit lui changer tu peux pas changer les gens. Et voilà, lui, c'est son parti, c'est sa façon. Mais déjà, quand il dit qu'il est de centre, moi, ça me fait bien rire. Hein. Il est de droite. Hein. Ça sert à rien de se le cacher. Le problème, c'est que à chaque fois, ceux de droite, ils sont tabous. Non. Frère, tu es de droite, bah tu l'assumes. Tu portes tes idées politiques du début jusqu'à la fin. Et voilà, ce qu'il ne fait pas. Et puis quand il fait ses discours, là, ses allocutions, mais c'est triste quand même. Il essaye d'embourber les gens. Enfin, c'est une catastrophe.
C'est clair.
Il assume pas ce qu'il fait, alors que le problème, c'est que moi, je préfère encore un mec qui fait de la merde et qui assume qu'il fait de la merde qu'un mec qui fait de la merde et qui l'assume pas.
C'est clair. Qui pense qu'il fait les choses bien, alors qu'il
a beaucoup trop d'égo. Qu'est-ce que vous voulez dire par le fait qu'il l'assume pas?
Bah, il est toujours... Ah, ça se voit dans ses
allocutions. Je pense qu'il essaie de ressortir les points positifs en disant « Ok, il y a quand même ça qui a marché et tout, mais non, il n'y a pas que ça, il y a le fond derrière. Et... »
Ça, le problème, c'est que tu peux
il
pas...
Il ne voit pas forcément... Enfin, j'ai pas l'impression qu'il écoute les Français pour l'instant. J'ai pas l'impression que...
Ah, mais il est complètement déconnecté. Hein.
Il est débordé dans son truc.
Mais le problème, c'est que... bon, après, c'est, en même temps, c'est un homme politique. Hein. Je veux dire, il n'y en a pas beaucoup d'hommes politiques qui sont nés pauvres, etc. Mais lui, c'est vraiment le mec... Je parle d'hommes politiques qui vont au pouvoir hein, avant c'est de voir clair. La salle au pouvoir, même si moi je l'aime bien, on a du temps. Hein. Mais non, je veux dire, il est complètement déconnecté. Mais ce qui est hallucinant, c'est que c'est vraiment le plus déconnecté de tous les hommes politiques que j'ai vus.
On pensait avoir vu le pire en disant mais un pain au chocolat à 2 euros, mais non, mais en fait non.
Mais c'est clair, mais Sarko à côté c'est rien. Parce que pourtant les hommes politiques ils ont du fric depuis toujours, donc on se dit bon.
C'était ça le problème en fait. Les hommes politiques ne voient pas, ne font pas partie de notre monde et ne voient pas c'est comment ça. Les Français vivent, à c'est part ça. Pendant les révoltes.
Mais le problème, c'est qu'il y a riche et riche. Il y a oui, être voilà. riche. Bon, voilà.
Je vais au privé et voilà.
Voilà, je vais au privé, mais pas, je sais pas, mon père est avocat et ma mère est médecin ou l'inverse, j'en sais rien. Mais sauf que lui, c'est pas un riche, c'est un très riche. Ouais. Donc à partir du moment où tu fais partie de la population, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, que t'es vraiment pour le patronat. Ça commence à être compliqué, tu vois. Il y a un moment donné, si on calcule le nombre de prolos et le nombre de patrons en France, les prolos sont bien au-dessus quand même. Hein. Donc voilà, il est complètement déconnecté. Il se rend pas compte.
Je sais pas si ça s'en est rendu compte. Enfin, pendant la période où voilà, il était. C'était encore le mandat d'Hollande et on le voyait évoluer, on voyait défendre ses idées. On s'est dit, ça peut être bien. Je pense pas qu'on se soit vraiment rendu compte de ce côté-là, de son côté. Où il va être totalement dans son monde, il va foncer vers quelque chose qui va se casser la gueule. Et dans son côté, on s'est pas rendu compte que ça allait devenir une pseudo-dictature en fait.
Oui, bah en fait.
Une pseudo-dictature ?
Ouais.
Bah, ça.
Quand tu vois la répression policière, c'est une pseudo-dictature.
Peut-être que c'est pas encore vraiment une pseudo-dictature.
La police est-elle politique selon toi, Chloé ?
C'est lié à la politique. Ouais. Mais,
non, là,
est-ce
là,
que la police,
est-ce que la police
pour vous est contrôlée par l'État ?
En partie, oui. C'est au moins en partie.
En fait,
vous prenez quoi comme exemple, par exemple?
Non, moi je pense que Benalla, forcément. Mais en soi, j'ai plutôt l'impression que la police a pas peur. Du coup, ils se disent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pas que pour moi,
ils sont dans leur rôle.
C'est ça. Non, mais il y a pas Macron derrière qui leur dit tiens, tu peux taper ce que tu veux, on va rien te faire. C'est pas Macron qui est derrière eux et qui leur dit ça. Mais c'est juste que à un moment donné, vous avez déjà vu des abus policiers punis ? Il y en a pas beaucoup, hein.
C'est ça le problème. Enfin, ça fait partie des problèmes en tout cas liés.
Bien sûr.
Après, attention. Je pense que on nous montre des vidéos, mais je pense qu'il faut savoir aussi ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'on voit des vidéos de manifestations de manifestants qui se font tabasser. Je pense qu'il faut quand même savoir avant ce qui s'est passé.
Mais même moi, je l'ai vécu.
Il faut aussi respecter le travail des policiers, qui est quand même un travail qui est très dur. C'est des mecs qui se font insulter, jeter des cailloux.
Bien sûr.
Je pense que t'as vu pendant les manifestations.
Sans eux, on serait tellement dans la merde, c'est
voilà.
Clair.
Je pense que t'as vu pendant le dernier acte des Gilets jaunes avant Noël. Un policier qui était débordé, qui a carrément dû sortir son arme. Je pense qu'il faut aussi respecter les policiers. Je pense que les policiers ne doivent pas supporter tous les maux de la terre.
Mais oui, bien sûr, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le sens où ils ont plus de contrôle. Ils sont arrivés à un stade où ils se disent que de toute façon, ils peuvent tout faire. Et je l'ai vécu moi-même pendant les manifestations lycéennes. On se fait attraper. On avait fait un sitting. On était assis à terre. Tu veux faire quoi ? Assis à terre, t'étais pas violent. On était juste assis. Et ils nous poussaient. Ils y allaient. Ils faisaient le truc en douce. Hein. Ça a mis genre peut-être une demi-heure. Sauf qu'ils nous donnaient des coups dans le dos pour qu'on se dégage. Tu trouves ça normal, ça ?
Enfin,
en même temps,
c'est petit.
Non, mais
c'est, ça,
si les policiers étaient venus simplement te voir en disant est-ce que vous pouvez partir, est-ce que tu serais réellement parti ?
Mais est-ce qu'on gênait quelqu'un ?
Bah, t'étais devant le lycée Guy Mollet, non ?
Oui, et alors ? On était en sitting, là ils pouvaient rentrer.
T'étais devant l'obstruction, si tu laissais passer alors.
Là on laissait passer, on était en sitting.
Tu laissais passer, mais c'était quand même un barrage filtrant, ça gênait quand même.
Quand ils nous ont.
J'y étais pas, donc je peux pas juger non plus, mais.
Après, moi, ce qui. Enfin, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que les policiers, c'est un des métiers les plus respectables qu'on puisse connaître. Et c'est clair qu'ils font beaucoup pour notre pays. Et on peut pas nier le fait qu'ils sont hyper importants. Après, je pense que le problème aussi, c'est tellement de répression, les problèmes qu'ils ont dans leur métier à cause de l'État, parce qu'ils sont pas si nombreux, parce que voilà, ils n'ont pas assez de moyens. Ça cause. C'est à cause de ce genre de choses, du coup, qu'ils ont un comportement qui commence à partir trop loin. Du coup, à cause de ça, forcément, ils sont exaspérés, ils sont au bout, ils font tellement d'heures sup, etc. Que voilà, ça entraîne. Ils sont humains, quoi. C'est normal. Après, c'est sûr qu'il y a des choses. Je suis d'accord, Chloé, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a des choses qui sont inacceptables. Je vois quand ils ont. Je crois que pendant des manifestations lycéennes, ils ont mis tout le monde à genoux, les mains derrière la tête pour les tenir sages. Il y a un moment, c'est clair, faut arrêter quoi. Ça reste des lycéens.
C'est juste
ils sont
parce
pas,
qu'ils avaient tout cassé. Mais le problème, c'est que tu peux pas réagir comme ça. C'est pas leur boulot.
Non, ils peuvent pas se permettre de faire ça. Je suis d'accord.
Ils sont pas là pour éduquer les enfants. Ils sont pas là pour le faire.
C'est clair.
Ça, c'est aux parents de le faire. Et un parent qui fait ça à son gosse, je te jure que je pète un câble. Hein. Déjà, tu mets pas d'enfant à genoux à terre, premièrement.
Oui,
mais encore moins quand t'es pas son père ou sa mère ou son tuteur ou n'importe qui, mais quelqu'un qui s'occupe de lui et qui forge son éducation. Je veux dire, à un moment donné, la police, elle est là pour assurer la sécurité.
Pour encadrer, ok.
Pour encadrer et assurer la sécurité.
Ils sont allés beaucoup trop loin.
Il n'y a pas de sécurité quand tu mets les gens à terre, en fait. Là, c'est pas une façon de mettre la sécurité. Il n'y avait pas de danger.
C'est clair.
Très bien, on va se retrouver, on va continuer de parler de l'année 2018 juste après une petite pause musicale, à tout de suite. You say I would have hit the ceiling, you said I. You said I should eat my feelings head held high. I won't take anyone down if I crawl tonight. But I still let everyone down when I change in size. And I went tumbling down trying to reach your height. But I scream too loud if I speak my mind. We'll be right back. Très bien, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission de l'Actuality Team sur l'année 2018. Je suis toujours en compagnie d'Héloïse.
Salut.
De Chloé.
Salut.
Et de Julie à la régie.
Salut.
On a parlé un peu politique, on va essayer de parler d'autre chose. Et notamment d'un sujet plus gai, de la
Coupe du monde.
Voilà, parce qu'on a la deuxième étoile. Je tiens à le préciser. Ouais. Quel est le joueur que vous avez le plus apprécié durant cette Coupe du monde?
Mbappé, quand même. Hein.
Mbappé.
Pas que. Après, il y a aussi.
Physiquement ou sportivement?
Sportivement, on se calme, on se calme. Benjamin Pavard aussi. C'était ouf quand même. Enfin, ces jeunes,
ça,
ils sont.
Physiquement, ça, Benjamin Pavard.
Non, c'est clair.
On parle sportivement, ok. Bon. Après, ça peut être les deux. Moi, je dis ça, j'ai rien. Bref. Concrètement, non, en vrai, moi, ce qui m'impressionne, c'est Benjamin Pavard. Il jouait à Lille encore 3 mois avant la Coupe du Monde.
Pas 3 mois avant la Coupe du Monde. Hein.
Mais franchement, c'était pas loin de ça. Hein. Il est venu peut-être quelques mois avant.
Avant Stuttgart, il était à Lille, c'est vrai.
Genre, il est venu genre quelques mois s'entraîner avec l'équipe de France. On lui a dit, vas-y, en fait, t'es un mec de ouf, tu vas venir en équipe de France. Il est venu, il a tout défoncé, clairement.
Et la grosse volée, second poteau Pavard. Exactement. Et toi, Chloé,
les deux, Mbappé, Pavard. En fait, ce qui
me... Non, vous me citez pas Griezmann.
Oui, alors Griezmann s'est moins révélé pendant la Coupe du Monde que pendant l'Euro, puis... clairement.
Parce que pendant l'Euro, vous me l'aurez cité, Griezmann. Ouais, vous me l'auriez cité.
Et même pendant la Coupe du Monde de 2014.
Oui, bien sûr.
Ouais, pour les larmes.
Après... Ouais, voilà, parce qu'il a quand même géré, bon, ça n'a pas suffi.
Mais il repleure pour autre chose.
Griezou, il tue, mais ça fait du bien de voir Mbappé et Pavard. Ils sont jeunes, ils ont réussi en partant de rien, tu vois. Et ça fait tellement plaisir de les voir.
On se dit, mais Mbappé, il a quoi? Il a 3, 4 ans de plus que nous, genre.
Non. Mais non, mais moi, il a 2 ans plus que moi, quoi.
C'est ouf. Est-ce que c'était...
J'aurais pu être un de mes potes, quoi. On habitait dans la même ville, ça me fait trop bizarre.
Je me dis la même chose avec les Miss France. Il y en a qui sont pas beaucoup plus vieilles que moi.
Ça aurait pu être ta copine. Non, mais oui, clairement. C'est impressionnant.
Est-ce que cette équipe vous a fait rêver?
Franchement, pas mal. J'ai vu l'ambiance que ça a donné, l'espoir qu'ils se sont dit, mais en fait, on va finir Coupe du Monde, là. Enfin, on va finir champion du monde, les gars.
En plus, ils y croyaient tellement pas au départ.
Mais ouais,
ils
se sont dit, non, mais ça va être la merde.
Bien sûr. Et non, moi, par contre, le seul point que qui m'a un peu saoulé, c'est un peu le comment on appelle ça? Enfin, tu sais, l'opposition entre la Belgique et la France.
Ouais,
il y en a marre.
Ah ouais,
quoi.
Que le somme des Belges.
Ouais, le somme des Belges, moi je trouve pas ça drôle, je trouve ça un peu méchant. Je sais pas, c'est parce que je suis peut-être un peu
mais
trop
ça,
gentille, tu vois. Mais
c'est l'arrogance à la française qui ressort un peu.
Ça me plaît pas trop, tu vois.
De toute façon, je sais pas si on aurait réagi pareil si les Belges avaient gagné, mais c'est possible.
On aurait réagi pareil. C'est...
On aurait eu le seum, on s'est dit, bien, on était à deux doigts là.
Ouais,
merde.
Mais c'est le seum, c'est normal que les Français soient arrogants, non? C'est ça que je trouve un peu bête.
C'est clair.
Mais ça a un peu cassé la fête du truc. Après, ce qui a été un peu triste aussi, c'est au moment du bus, quand ils sont arrivés, tout le monde était dead.
Cette politique, je suis d'accord.
Mais ça,
tant pis, c'est dommage.
On sait que c'est pas de la faute des footballeurs. On sait que c'est pas de leur faute à eux. Eux, au contraire.
Ils ont quand même mis le feu après au champ.
Et puis, ils étaient pas du tout contents. Ils ont tous dit sur.
Ouais, ils voulaient faire un deuxième tour.
Ouais, ça leur plaisait pas du tout que ça soit passé aussi vite.
Alors, est-ce que vous avez regardé tous les matchs?
Ah
ou
non,
une partie.
J'ai suivi tous les matchs, après j'ai pas regardé tous les matchs.
D'accord. Quel est le match que vous avez le préféré?
L'Argentine m'a impressionné. Et forcément.
Moi je suis d'accord, l'Argentine
la
c'était quand même.
Alors, la Belgique, on a gagné. Alors si je me souviens bien, on a gagné
1-0.
De justesse. Quoi.
1-0 grâce à Samuel Umtiti qui casse la démarche.
Ouais, c'est ça. Pour moi, le France-Belgique c'était pas le plus beau match tout. C'est la finale.
La finale était cool. vous êtes sortis dans les rues un peu faire la.
Non, personnellement, non. Mais...
Bah, en fait, à chaque fois, j'ai eu de la chance. Genre, je venais d'aller au ciné ou des trucs comme ça. Et du coup, à chaque fois que je sortais, c'était la fête dans les rues et tout. Et donc, à la finale,
c'était bien.
Ouais.
Juste de
mais
se balader
pas
dans Arras et de
voir, gueuler,
d'entendre,
ça
de dire, tuer. Ok, là, il y a eu un but parce que tous les clubs viennent de gueuler. Genre,
là, il y a tous les
bars. Partout.
On peut suivre le score juste en passant à côté des bars.
Nous, à un moment donné, on avait regardé, genre, la finale. Je l'ai regardé. En fait, j'ai fait bar par bar. Après, c'était trop drôle. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'entendais un but, du coup, j'allais voir. Et le dernier but, le but de la finale, je l'ai vu dans un magasin d'électroménager.
Okay.
Non, pas d'électroménager, de téléviseur. Et c'était sur une de leurs télés, parce que tu sais, souvent ils mettent des trucs sur la télé. Et j'étais mort de rire parce que je me suis dit, mais quand même, à un moment donné, regarder la finale dans un magasin de téléviseur, quoi.
C'est original. Non, mais c'est vrai que moi, je me suis dit, ok, s'il y a un attentat qui gâche tout, on est dans la merde. Mais il n'y a rien eu et c'était vraiment.
Heureusement.
À part... Oh non, mais c'est clair. Mais je me suis dit quand même, bon voilà, il y a eu quelque chose, on a eu peur pour l'euro. Je suis sûr que.
Au final, les fan zones, ça s'est très bien passé.
Ouais, c'est clair.
C'était même une belle fête, moi, je trouve. J'y étais pas, je suis pas allé voir vraiment, mais. Quand mais on voit des images, c'est beau, une belle ambiance.
C'est beau de redonner une morale aux Français, en fait. C'est beau de voir que, que la France, c'est pas que des râleurs, c'est pas que des gens casse-couilles.
Puis 5 jours après, il y avait l'affaire Benalla qui a redivisé tout le monde. C'était franchement une période magnifique. Beau, quel est le joueur qui vous a fait le plus rigoler? Parce que franchement, moi, c'est une équipe qui m'a fait rêver, alors, mais qui m'a fait rigoler aussi.
Ouais, c'est sûr. Je croyais que l'ambiance entre les joueurs était énorme, franchement.
L'ambiance, ça sentait,
Quand il disait quoi, il disait... quand il a fait des blagues sur les Croates, quoi, enfin...
Avec Adil Rami, ouais, regardez encore la vidéo tout
Rami,
à l'heure.
Rami, lui, il est mort de... Enfin,
avec sa moustache à l'italienne.
Drôle, mais
ouais,
oui.
C'est ça. Franchement, et puis ouais, il a quand même la meuf la plus belle de la Terre, quand même.
Ah, il y a Pamela Anderson.
C'est sûr, avoir Anderson comme meuf, c'est sympa quand même, je trouve.
C'est sûr qu'honnêtement, il y a Pierre. Ah, c'est clair.
Ouais. On sent la jalousie du côté des deux.
Non, je rigole. Oui, non, ouais. Bon,
on voit que j'aime tous les côtés et que je suis un peu triste.
Non, en vrai, l'ensemble de l'équipe m'a fait rire, m'a fait rêver. Et c'était beau. Enfin, c'était beau de voir la France comme ça unie parce que après, voilà. Après, ce qui m'a fait rire aussi, ce qui m'a fait plaisir, c'est les réactions sur Facebook. On voyait que chaque joueur ne venait pas forcément de la France. T'en avais, voilà, il y a un tiers de l'équipe qui est noire, mais on s'en fout, ça vient de
ils
partout.
Ils sont nés en France.
Oui, il y a des polémiques comme ça. Ça
mais non, enfin, je veux dire, c'est la France qui a gagné, c'est la France de partout qui a gagné, et c'est beau en fait de voir ça.
La France ne se limite pas à la métropole, c'est aussi.
Heureusement. Et c'est ça qui, je pense, c'est ça aussi qui fait de la beauté de la France, c'est que ça vient de partout, ça mélange de tout, n'importe quoi, et c'est magnifique, je trouve.
Tu vois. Carrément.
J'ai vu ça sur Facebook, tous les drapeaux qui étaient absolument pas forcément français à côté des joueurs. Puis un autre joueur qui a mis tous des drapeaux français à tout le monde. Et je trouvais ça sympa.
Et en général, l'année sportive en France, je pense notamment aux handballeuses.
Ouais.
Championne du monde aussi. Franchement, on est magnifique. Hein. Là, je redeviens un peu arrogant, mais champion du monde partout.
Ça fait plaisir.
Il manque le tennis, c'est pas grave, on l'a perdu.
Oui, c'est vrai que le tennis, ça fait un petit bout de temps qu'on galère.
Ah, on l'avait gagné l'année dernière, la Coupe Davis.
Ouais, c'est vrai, il y avait quand même la Coupe Davis.
Enfin bref.
Voilà.
Je sais pas, est-ce que vous avez quelque chose, un dernier sujet dont vous aimeriez parler concernant cette année 2018 ?
On n'a pas encore parlé du coup de.
Sur les fachos, je me vénère, donc on parle pas de Poutine et de. Enfin, Poutine, c'est pas un facho, mais de. Comment il s'appelle l'autre con là au Brésil ?
Ah oui !
Bolsonaro,
ouais, voilà.
On en parlera pas. Par contre, ouais, on n'a pas encore.
Le populisme fera l'objet d'une autre émission un peu plus.
Là, ça va être chaud.
Ouais, là, on va m'entendre.
On vous y attend, les amis.
Héloïse, ouais. Un autre sujet.
On n'a pas encore. Kim Chaker, on n'a pas encore parlé des décès du coup. Mais oui, enfin, de toute façon, il y a
un peu Aznavour,
pas grand chose à dire en vrai. Enfin, juste voilà que c'est triste et que deux d'un coup, c'est bizarre quand même. C'est du puni, c'est sale quoi. Mais
Oh putain, il y a.
Mais gros mots, ça fait beaucoup, Chloé.
Mais comment il s'appelle le cuisinier là?
Ah, Bocuse.
Oui, Bocuse qui est mort.
C'est vrai. C'est vrai.
Putain, c'était le meilleur.
Ça fait trois putains d'une émission. Moi,
Sortez les mouchoirs, c'est le moment de pleurer. Oui. Écoutez, bon, en tout cas, c'était la première émission de l'année de l'Actuality Team sur PFM 99. Je remercie Héloïse. Merci, Héloïse.
Salut.
Chloé.
À bientôt.
Salut.
Ainsi que Julie.
C'est trop,
merci,
trop beau.
Merci, Julie, pour cette petite musique.
On va avoir la larme à l'œil, c'est impossible.
Ça donne envie de pleurer. Et moi-même, Thibaut, je me te remercie. Merci de nous écouter, d'être si nombreux
merci.
Chaque semaine. Au revoir. Salut.
À bientôt.